Yes!
Il y a Linda qui écoute. Fait que Linda, je prête juste à toi, les autres. Vous pouvez faire votre sieste du dimanche après-midi. Non, mais on s'en va dans Genèse 1. On va juste lire deux versets pour s'introduire. Je vais avoir beaucoup d'autres versets que je vais vous lire à travers le message. Bon, on y va au commencement, hein, de vraiment toute cette histoire rédemptrice qui nous est racontée dans la Bible. Et ici, c'est le récit de la création de l'homme. Donc, Genèse 1, 26 et 27. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » On fait juste lire ça pour l'instant. On va lire d'autres passages dans Genèse. Et comme je dis aussi, je vais vous lire aussi d'autres versets dans la parole de Dieu. On termine quelque chose de notre commencement. On a commencé à regarder c'est quoi la victoire qu'on a en Jésus-Christ, notre union avec Christ et tout ça. Et rappelez-vous, on répond à une question depuis plusieurs semaines. On a répondu avec Galates 2:20. Rappelez-vous, c'était quoi la question? Question simple, mais existentielle. C'est quoi? Hein? Vous pouvez même tricher et regarder dans vos bulletins. Hein? Est-ce quelqu'un qui l'a dit et je ne l'ai pas entendu? Qui suis-je? Qui suis-je? Mais la réponse que Dieu donne, qui suis-je en Jésus-Christ? Et on y va avec on retourne maintenant au plan original. On a vu dans Galates 2:20, on a considéré ça dans des messages ensemble depuis qu'on a commencé. Là, on retourne au plan original avec le récit de la création ici. On va considérer cette identité en Jésus-Christ à la lumière de notre nouvelle création. Mais on va voir aussi comment tout ça a pris naissance dès la création. Et je dirais, vous dites, ouais, il me semble que c'est beaucoup de messages juste pour une petite question. 4 messages déjà sur la question qui suis-je. Mais c'est parce que c'est une question fondamentale, extrêmement importante, et qui est vraiment une clé par rapport à cette série sur notre victoire en Jésus-Christ pour comprendre pas seulement qui je suis, que moi je me donne la réponse, qu'est-ce que Dieu a fait de moi en Jésus-Christ, qu'est-ce que je suis en tant que nouvelle création. Et donc c'est ça qu'on considère ensemble, et vraiment c'est pourquoi c'est important de le regarder comme il faut, prendre le temps, parce qu'on veut s'approprier ça comme étant notre réelle identité. Ce qu'on a vu ce matin sur la tromperie, souvent on peut s'identifier à ce qu'on était, à ce qu'on a toujours été, à notre passé. Mais si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est ça notre vraie identité. C'est pour ça qu'on prend le temps de répondre à cette question, parce que c'est la réponse du renouvellement de l'intelligence. C'est pas la réponse par défaut par laquelle on s'identifie naturellement. C'est pas la réponse naturelle, c'est la réponse qui vient de par l'œuvre de grâce de Dieu dans nos vies. OK? Et c'est vraiment la clé pour la victoire. C'est pour ça qu'on prend le temps de le regarder ensemble. À partir de la semaine prochaine, on va amener les choses à un autre niveau. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit 3 vérités pour répondre à la question « Qui suis-je? » mais à la lumière du plan original de Dieu. D'abord, la première vérité, ce que je suis est déterminé par ce que Dieu a fait de moi. Ce que je suis est déterminé par ce que Dieu a fait de moi. Ici, on est dans le plan original. On l'a lu, Dieu nous a fait comment? À son image. OK? Et Dieu est esprit. Et Dieu, on apprend aussi que Jésus a dit, hein, à la femme samaritaine qu'il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit puis en vérité. Et donc, si je veux répondre à la question « Qui suis-je? » il faut que j'y aille avec l'aspect spirituel. Et n'est-ce pas vrai que l'homme est un être spirituel? Il y a plein de religions dans le monde. Il y a des, tu sais, être un être spirituel, ça veut pas dire qu'il y a la bonne réponse sur le spirituel, mais il y a des religions, il y a toutes sortes de formes de spiritualité. Puis même, ce que certains appellent la science, c'est juste une forme moderne de religion parce que les gens y croient puis ils adhèrent comme à une religion. Avec les prêtres qui sont dans des sarraux blancs. Puis c'est religieux. C'est la nature religieuse de l'homme. Donc, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est pas comme le monde pourrait dire, par exemple, si je suis un homme ou une femme, si je suis grand ou petit, si j'appartiens à telle communauté ethnique ou à tel pays, à telle culture. Ça, c'est des choses du domaine physique, c'est pas ma vraie identité. Ce que je suis est déterminé par mon côté spirituel. D'abord, si on n'est pas sauvé, on est mort dans nos offenses et nos péchés. On est séparé de Dieu, on est un pécheur séparé de Dieu. Et si on est sauvé par la grâce de Dieu, ben, on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. On est passé de la mort à la vie. On est rendu un enfant de Dieu par la grâce de Dieu. C'est ce que nous sommes. Et maintenant, ce que j'aimerais qu'on regarde avec ce plan original de ce que je suis qui est déterminé par ce que Dieu a fait de moi. Si on regarde le plan, je vais aller voir, on va y aller à développement, puis ça va vous aider à comprendre ce que Dieu a fait de nous autres. Savez-vous, dans le jardin, dans le plan original de Dieu, avant que le péché rentre dans le monde, on a glissé un petit peu, un petit mot là-dessus dans le premier message, mais là, j'y vais plus en profondeur. Dieu nous avait donné trois, il avait comblé trois besoins fondamentaux quand il nous a créés. Il y a trois choses qu'on avait qui remplissent notre intérieur. D'abord, on avait une sécurité de par une communion inaltérable avec Dieu. On était en communion avec le Dieu vivant, dans la présence de Dieu, marchait avec lui dans le jardin. On était sécure, on était dans un endroit de sécurité. Aussi, on était accepté. Il y avait une relation entre Dieu et l'homme qui était sans entrave. Il y avait une communion, mais aussi une intimité qui était là constamment. Donc, la sécurité, l'acceptation. Et aussi, on l'a vu, hein, Dieu n'a pas juste dit, OK, allez dans le jardin, puis mettez-vous les deux pieds sur le divan ou attendez sur un banc de parc. Puis... Non, il avait donné un but. Hein. On sait qu'aussi, il avait donné tous les animaux, mais aussi à nommer, puis tout ça. Mais aussi, il avait donné la domination sur la terre. Donc, il y avait un but. Il y avait une valeur que Dieu avait donnée à sa vie. C'était pas juste une vie comme ça qui faisait rien, c'était une vie qui glorifiait Dieu. L'homme étant le chef-d'œuvre de la création de Dieu, Dieu l'avait créé pour le glorifier, puis pour qu'il apprécie son Dieu de façon éternelle. Mais, puis là c'est pas un mais Dieu que j'ai à dire, c'est tantôt le mais Dieu. Là il y a un mais qui est triste. La chute a tué cette vie bénie et parfaite qu'il y avait dans le jardin. Et là, ce qui est arrivé, la sécurité qu'on avait a donné place à la peur, et pas n'importe quelle peur, une peur contrôlante, pour dire que lorsque le péché est rentré, chapitre 3, verset 10, qu'est-ce que l'homme dit? « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc, la sécurité a donné place à une peur contrôlante. L'acceptation a été remplacée par le rejet, un rejet accablant, parce qu'est-ce qui est arrivé? À la fin du récit du chapitre 3, on apprend que l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden, il a chassé l'homme parce que pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Donc, le rejet, c'était fini le jardin, cet endroit parfait sur la terre que Dieu avait fait. Et aussi, on avait perdu notre valeur, cette vie significative que nous avions. Ça a été remplacé, ça a donné lieu à une honte, une culpabilité humiliante. On apprend ça dans chapitre 4, il y a plusieurs endroits, mais un exemple de ça, chapitre 4, verset 25, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Déjà, hein, dès le début, le meurtre était rentré dans la famille, c'était une histoire, quand on rend l'histoire familiale dans la Bible, c'est toutes des familles qui a problème, dysfonctionnel, du péché, là ici du meurtre, des fois il y a de l'adultère, toutes sortes de choses. Donc, on voit, hein, sécurité remplacée par la peur, l'acceptation par le rejet, la signification aussi, la valeur remplacée par la honte et la culpabilité. Mais, puis là, c'est un bon mais. Dieu, en Jésus-Christ, par sa rédemption, la vie que nous avons perdue par la chute, a été complètement restauré dans sa plénitude. C'est-à-dire que nous avons tout pleinement en Christ. Et quand Jésus dit qu'il est venu donner la vie, qu'il la donne en abondance, c'est cette vie qu'on a perdue, il est venu la donner au complet. C'est pas comme Stéphane, tu as la sécurité. Tu fais une coupe de Air Miles de plus, tu vas avoir la signification. Puis là, non, on a tout pleinement en lui. Quand on est sauvé, Dieu nous donne une vie qui renferme cette sécurité, cette acceptation et qui est significative. Et là, je vais vous donner une coupe de versets en rafale pour vous appuyer ça. La sécurité a été restaurée et retrouvée par l'amour parfait de Christ qui bannit la crainte. C'est pas mon amour, c'est son amour. Rappelez-vous que la sécurité était remplacée par la peur. Bien, l'amour de Christ. Puis rien ne peut me séparer de son amour. Ça bannit la crainte. Voyez-vous comment que un restaure ce qui a été perdu? Maintenant, pour l'acceptation, elle a été retrouvée. Oh, j'ai un beau médieu à vous partager. Écoutez-le bien. Vous savez que j'aime les médieux, hein? Médieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tu ne peux pas être plus accepté qu'être directement au ciel avec Dieu. Même maintenant, en Christ, nous sommes dans les lieux célestes. Dieu nous a ressuscités ensemble. On est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et pour une vie qui a une signification, qui a une valeur, on a retrouvé ça. On voit ça. Bon, il y a plusieurs passages, j'en ai juste conservé quelques-uns, mais encore dans Éphésiens. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est pas comme, ah, oh, ben là, t'es sauvé, puis tu vas sur le banc qu'Adam a laissé, va le remplacer, t'as pas plus quelque chose à faire. Non, Dieu nous a donné des bonnes œuvres, Dieu nous a créé en lui pour un but qu'il a préparé d'avance pour que nous les pratiquions. Puis ici, hein, ça dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que le fils soit le premier-né de beaucoup de frères. On est appelé à ressembler à Jésus lui-même. Et même, ça dit dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 4, les promesses de Dieu nous assurent de sa part les plus grands, la vie et la piété en Christ nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Parlez-moi de une signification, avoir une vie significative. Tout ça est retrouvé en Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire que Jésus est venu donner la vie, puis qu'il la donne en abondance. C'est la vraie vie, c'est celle qu'on avait perdue. C'est ça, le retour au plan original. Vous êtes d'accord tout avec moi? Il n'y a personne qui ronfle, c'est bon signe. Tout ça, c'était impliqué dans retrouver la vie véritable par le Dieu véritable. Hein? On sait que c'est un des titres de Jésus. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable avec un grand V. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, on est dans le vrai. Avant de connaître Christ, on était dans le faux. On n'était pas dans une vie qui n'est pas une vraie vie qui satisfait, qui amène la vraie sécurité, la vraie acceptation, la vraie signification. Mais maintenant, en Christ, on est dans le véritable. C'est pas une espèce de version améliorée du faux. Non, non, c'est complètement nouveau, c'est complètement pas, c'est renouvelé, c'est parfait, c'est beau, c'est de Dieu. C'est ça qu'on a retrouvé. Rien de moins que le produit original parfait. Ceci dit, les implications de toute cette restauration rédemptive, ça s'arrête pas là. Comme si c'était pas assez, ça s'arrête pas là. Par rapport à la fameuse question de qui suis-je, face à ce plan original-là, Dieu a redéfini notre nature même. Hein? Ça veut dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a fait de nous une nouvelle création? Ben, c'est la deuxième vérité. Non seulement ce qu'on est déterminé par ce que Dieu a fait de nous, mais Dieu a fait de nous, la Bible nous dit, un saint. Connaissez-vous 1 Corinthiens 3, 17? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous êtes saints. D'ailleurs, beaucoup de les épîtres de Paul commencent comme ça en s'adressant aux saints qui sont à Corinthe, qui sont à Éphèse. Ils s'adressent aux enfants de Dieu comme étant des saints. Là, non seulement ouvrez vos oreilles, mais ouvrez votre cœur. Parce que c'est pas que ce que je vais dire est controversé, c'est que c'est dur à accepter des fois. Parce qu'on est tellement conditionné que des fois, Dieu nous donne des vérités puis il rentre même pas. Que Dieu nous dit des choses puis on n'est pas habitué de se voir de même. Puis il dit, ben on est saint, ben oui. Alors, tout le monde croit ça qu'on est saint. Attends un peu, on va le regarder comme il faut pour voir si vraiment on le croit. Parce que je pense qu'une illustration puissante du fait que souvent, on est lent à croire, comme Jésus a dit aux disciples, c'est que Dieu nous dit des choses, puis on ne s'identifie pas à ça comme, ben oui, c'est comme ça. Puis je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. On a de la réticence, de la résistance à accepter de se laisser définir tel que Dieu nous définit. Je vous ai lu 1 Corinthiens 3, 17. Écoutez maintenant 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Cette exhortation de Pierre est une exhortation à agir selon ce que nous sommes. Regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu. Dieu a fait de nous qui étaient des pécheurs, séparés de Dieu, morts dans leur péché, il nous a placés en Jésus-Christ. On est à part, on était morts, on est vivants. Dieu a fait une œuvre extraordinaire par notre salut fondamentalement. Et c'est là que je dis, écoutez bien, fondamentalement, on n'est pas identifié, étant des chrétiens, on n'est pas identifié comme étant des pécheurs. C'est pas qu'on peut pas dire, ah, je suis un pécheur, puis ça. Mais fondamentalement, c'est plus notre identité. Écoutez, Romains 5, 8, ça dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs au passé, Christ est mort pour nous. » Pensez à ça. Il y a 300 références au mot « pécheur » dans le Nouveau Testament. Et vous pouvez vérifier pour vous-même. Mais c'est consistant de référer à ce que quelqu'un est avant Jésus-Christ. À ce que nous étions, puis ça réfère à des gens qui ne connaissent pas Christ. Paul, dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 15 et 16, il dit « Cette parole est entièrement, et certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui » pour la vie éternelle. On a parlé les mercredis soirs quand on a étudié ce passage-là, mais Paul prend ça comme un exemple. Il s'identifie comme pécheur pour montrer la grâce de Dieu qui l'a sauvé. Et par contre, mais d'un autre côté, il y a le mot pécheur, mais si on prend le mot saint, ça se retrouve 200 fois dans le Nouveau Testament à peu près, là. Ça réfère la majorité des fois, à moins que ça parle de quelque chose qui est saint, là, mais quand ça réfère à des personnes, ça réfère à des chrétiens. Dans le sens où ça les définit. Des gens qui sont mis à part, des gens qui sont distincts du reste du monde. C'est des saints. Ça réfère à notre position en Jésus-Christ. La Bible, on l'a lu tantôt, et ça dit c'est ce que nous sommes. On est définis comme étant saints, dans cette place d'honneur, d'usage consacré pour Dieu. Maintenant, si on poursuit un peu notre réflexion dans ce sens-là, on apprend dans Galates, ça dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Revêtu Christ. Il y a un des réformateurs qui parlait d'un chrétien comme étant un tas d'immondices que Dieu a couvert de la justice de Christ. Et je peux comprendre l'idée. Mais je pense que l'idée biblique de la justification et de ce que Dieu a fait de nous autres, c'est plus ce qu'on voit avec le fils prodigue. Le fils prodigue, ça dit, le père dit à ses serviteurs, une fois que le fils est allé le voir, tout ça, ça dit, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Écoutez ce que je vais vous dire. Le fils prodigue, il est arrivé là, OK, est-ce qu'il est... Est-ce qu'il était tout clean, puis tout beau, puis tout parfait quand il est allé au Père? Non. Mais le Père lui a donné cette robe d'honneur. OK? Puis d'ailleurs, le fils s'attendait à être puni. Hein? Puis il y avait déjà son petit discours, puis il a pas eu le temps de le finir. Mais le Père le couvre de cette robe d'honneur familiale qu'il rattache à la famille. Et donc, est-ce que la robe l'a rendu acceptable pour que ça couvre sa souillure? Non, c'est plutôt à cause qu'il était fils. Il a eu la robe. La souillure était extérieure, mais la robe ne faisait que confirmer ce que lui, il était. Il était reconnu comme un fils pour ceux qui avaient la robe. Comprenez-vous? C'est par son appartenance qu'il avait cette robe. Le voisin n'a pas eu cette robe-là, c'était la robe qui était donnée à cet homme-là parce qu'il était un fils. Et puis d'ailleurs, qu'il avait tout déshonoré, tout ça, mais là, il retrouvait l'honneur. C'est vraiment puissant de voir tout le langage d'honneur qui est dans cette parabole-là. Autrement dit, il s'est fait donner cette robe parce qu'il était sécur, parce qu'il était accepté, puis parce qu'il avait de la valeur aux yeux du Père. C'est puissant. Maintenant, gardez ça en tête et écoutez ce que ça dit dans 1 Corinthiens 6:11. Et c'est lorsque vous étiez certains d'entre vous, puis là, il y avait une liste de péchés avant, là. OK? Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Écoutez aussi Hébreux, chapitre 8, verset 10, qui est une citation de Jérémie avec la Nouvelle Alliance. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » La Nouvelle Alliance est une nouvelle appartenance. « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Et à cause de ça, Dieu nous donne une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature est selon la vérité, c'est pas l'imagination, c'est Dieu qui nous a fait naître de nouveau, qui nous a donné la vie à nous qui étions morts. Et ça, c'est bien malgré le fouillis dans lequel on a pu se mettre, ou comment on peut se sentir mal des fois, comment on a pu avoir fait les choses tout croche comme on n'aurait pas dû. Si on est en Jésus-Christ, on est sauvé, on est accepté en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. C'est pas ce qu'on a de l'air, c'est pas ce que les autres... C'est ce qu'on est, comprenez-vous? C'est vraiment fondamental. Pas moyen qu'on fait du « qui suis-je » depuis quatre messages. Ça rentre pas facilement dans le coco. C'est pas... Il y a juste moi qui ai de même. En fait, il faut pas juste que ça rentre dans le coco, il faut que ça rentre jusqu'au cœur. Est-ce qu'on accepte, là, comprenez, là, pas, hey, t'as pas le droit de dire qu'on est pécheur, tout ça, mais l'idée, c'est que c'est pas mon identité première. Pécheur, c'est ce que j'étais avant Christ, maintenant, je suis saint. C'est ce que Dieu a fait de moi, il y a une transaction, comprenez-vous? On peut partir sur la police, hey, t'as dit pécheur, t'as pas le droit, tu dois pas être sauvé. Partez pas là-dessus, c'est ridicule, mais c'est de comprendre ce que Dieu a fait de nous autres. OK? Nous qui étions comme ça, Dieu a fait de nous une nouvelle création. Puis il y a des noms pour ça, un pécheur, l'autre saint, comprenez-vous? S'approprier ça, c'est salutaire. C'est m'approprier ce que Dieu a fait de moi, comment lui m'appelle. Puis en passant, il appelle les Corinthiens de même. S'il appelle les Corinthiens de même, vous pouvez mettre le chapeau, OK? À moins qu'on ait quelqu'un qui est pire qu'un Corinthien ici. Mais bon. Puis en plus, j'ai tout... Hein? Je l'ai manqué, celle-là. Ah, elle est bonne celle-là. Ça, c'était-tu toi, ça? Ah, c'était toi! Non, mais c'est ça, tu sais.
Un dépeint.
Ouais, c'est ça, à un moment donné, ça dépeint. Il y a sûrement une joke avec pain, dépeint, là. On partira pas parce que c'est enregistré, ça. Ça va être sur les internets. Bon, qu'est-ce que je disais avec tout ça, là? OK, enfant de Dieu. Donc, oui, aux yeux de Dieu, je suis juste, pur, saint, à l'intérieur. Et c'est... Et tout ça, c'est ça le fait d'être, c'est l'image englobante de la nouvelle naissance, d'être revêtu de Christ, et c'est ce que Dieu a fait au plus profond de mon être. Il m'a rendu saint. J'ai pas juste l'air d'un saint, je suis un saint. Et lorsque le Père me regarde, il ne fait pas juste regarder un fouillis qui est couvert avec une couverture, il regarde une nouvelle création. Et faites-vous-en pas, je vais vous parler du péché, parce que c'est souvent là qu'on a de la misère. Oui, mais je pêche encore. On s'en vient là-dessus, là, mais je veux juste qu'on apprécie c'est quoi que Dieu a fait avec toute cette idée de sainteté. Même que Dieu dit qu'il fait de nous ses délices. En fait, je pense que c'est en anglais que ça dit ça. En français, ça dit qu'il prend plaisir en nous. Écoutez, ben, j'ai dit, je pense que ça dépend des versions, mais moi, dans la version que j'ai ici, ça dit dans Ésaïe. Oui, c'est bien ça, Ésaïe. J'ai ça écrit à quelque part sur une feuille ici, là.
Épouser et mon plaisir en elle.
Ouais, attends un peu, là. 42. Ah, je l'ai ici. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il renoncera et il annoncera la justice aux nations. Ici, c'est une prophétie messianique. Mais en étant en Jésus-Christ, ça s'applique à nous. Et aussi, ça dit, dans 62.4, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on l'appellera ton époux, on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Et ça, c'est des promesses, c'est par rapport à Jérusalem, la ville bien-aimée, puis tout ça. Mais tout ça, c'est rattaché à Christ et son œuvre rédemptrice et ce que nous sommes en lui. Maintenant, ce que nous sommes, c'est fait, ça ne peut pas être changé. Okay? Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas désauvable. Parce que ce qu'on est en Jésus-Christ, c'est une transaction éternelle, parfaite, faite par Dieu lui-même. Ce qui a été perdu, ça a été restauré. Okay? Donc, si Satan ne peut pas changer ça, okay? Parce qu'il ne peut pas, il va essayer de nous faire croire au mensonge que c'est pas vraiment ce qu'on est, de pas l'accepter pleinement, de mettre toutes sortes de nuances qui vont faire qu'on va pas accepter ça simplement tel que c'est. Parce qu'il sait que ça va affecter notre marche, notre confiance dans le Seigneur, notre hardiesse, parce que lorsque je crois pas ça, ce que Dieu a fait de moi, puis qu'il me fait croire que je suis inférieur, inutile, impur, abandonné, ben, je vais agir selon ça. C'est vraiment important ce que je crois. La tragédie, c'est lorsqu'on croit les mensonges que je viens de nommer, puis qu'on agit comme si c'était vrai. Parce qu'on devient esclave, on devient misérable. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, mais si vous croyez au mensonge, le mensonge va vous asservir. Ça marche des deux bords, cette affaire-là. Pour ça que c'est tellement important que ces vérités-là, on s'y approprie, puis on s'en nourrisse. On s'en nourrisse les pensées, on s'en nourrisse le cœur. Malgré le fait qu'on des fois, puis là on s'en vient sur l'autre côté de la médaille. Ah, mais si tu savais par quoi je suis passé, ce que j'ai subi dans ma vie. Ou, tu connais pas les erreurs et les péchés que j'ai commis en tant que chrétien. La vérité, c'est que ça change pas ce que tu es en Jésus-Christ. Là, je ne parle pas là, de quelqu'un qui professerait Christ et qui vit comme il veut. Là. Je parle de quelqu'un qui est un enfant de Dieu. En passant, un enfant de Dieu, ça peut encore continuer à pécher et à croire des mensonges puis tout le kit. Là. Okay? Il ne va pas prendre plaisir à ça puis Dieu va le châtier quand il pêche puis tout ça. Mais je veux dire, c'est la dure vérité. Maintenant, écoutez cette phrase. Je ne vais pas la dire deux fois pour la laisser rentrer. Si Christ m'a aimé quand j'étais un pécheur, pensez-vous qu'il va arrêter maintenant que je suis un saint? Si Christ m'a aimé quand j'étais pécheur, pensez-vous qu'il va arrêter maintenant que je suis un saint? La Bible nous dit que rien ne peut nous séparer. Si vous en doutez, relisez Romains 8. Ça finit, hein? Ça commence avec pas de condamnation, ça finit avec pas de séparation. Romains 8, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Savez-vous, on n'est pas sauvé ni sanctifié par comment qu'on se comporte. Ça n'a pas rapport. On est sauvé, sanctifié parce que nous croyons. Par où notre foi, elle est. Parce que la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. C'est connaître Jésus-Christ. C'est Christ qui vit en moi. Pour moi, Christ, c'est ça ma vie. N'est-ce pas? Et c'est le plus grand trésor de la vie chrétienne. Quand on a ça comme réveil matin, puis qu'à chaque jour, même quand que c'est lundi, même quand que la veille ça n'a pas bien été, puis qu'on se réveille, puis qu'on se rappelle ce que nous sommes en Christ, ça change absolument toute la journée. Parce que là, on ne s'identifie pas à tout ce qui ne marche pas, puis ce qui aurait pu être ci, puis ça, on s'identifie à ce que Dieu a fait. Puis Dieu va s'occuper du reste. C'est salutaire, ce dont on parle, mes amis. Alors, la question, c'est pas comment je me comporte différemment, mais comment je suis appelé à croire différemment. Au lieu de croire le mensonge, puis croire ce que j'ai toujours cru, croire maintenant ce que Dieu dit dans sa parole sur moi. C'est ça l'idée d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que par défaut, on est conforme au siècle présent, puis on va croire toutes sortes de choses à gauche, à droite, du mensonge. Mais quand on est sauvé, puis que là, Dieu fait son œuvre, il réaligne nos pensées avec sa parole. Ça m'amène à la troisième vérité cet après-midi. Ce que je fais ne change pas ce que je suis. J'ai dit que j'allais revenir là-dessus, j'ai glissé un peu de mots là-dessus dans le deuxième point, mais ce que je fais ne change pas ce que je suis. Écoutez ce que ça dit dans Romains 7. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Y a-t-il quelqu'un qui avait pensé à ça avant que j'en parle? Tu sais, quand je dis on est saint, puis là, oui, je me sens pas très saint. Je me sens charnel, vendu au péché. L'un des plus grands problèmes que nous avons et qui nous empêche de nous voir comme étant saints, comme étant ce que Dieu a fait de nous autres, c'est qu'on est conscient de notre péché. Puis en passant, c'est pas mauvais d'être conscient de notre péché. La loi nous a été donnée pour ça. Si on n'est pas conscient de notre péché, on va être endurci par rapport au péché, puis je veux dire, le péché va nous détruire. Mais comme je le dis souvent, le péché, c'est pas la fin de l'histoire. La loi nous conduit à Christ. Lorsque la loi nous montre notre péché, c'est pour nous conduire vers celui qui et la libération du péché, qui est la fin du péché, qui est la victoire sur le péché. C'est pas la fin de l'histoire, le péché. Faut pas le négliger, faut pas fermer les yeux dessus, faut pas l'excuser. Faut aller avec celui qui est la solution lorsque Dieu nous le pointe. N'est-ce pas? OK, si j'ai un problème de ronflage, qui ronfle ici? Moment d'honnêteté, là, levez la main. Surtout des gars, hein? Les filles, c'est-tu juste qu'ils mentent ou les gars, ils dorment tellement dur à ronfler qu'ils ne se rendent pas compte? C'est rien que des gars qui ronflent. En tout cas. Non, l'autre jour, j'ai entendu ma femme pour la première fois de ma vie. Hey, j'étais là, j'avais que ce goût de partir l'enregistreuse. J'ai entendu ma femme ronfler. Je pense qu'elle était bien. C'est drôle, elle ronflait, là. C'était drôle. C'était quoi? Ah, c'était drôle la façon qu'elle ronflait. Tu sais, comme quand elle roule les airs, ben là, elle roulait son ronflement. C'était tellement, là, particulier. Elle ronflait en roumain. Essayez ça. Ma femme, elle roule ses airs, même quand elle ronfle. En tout cas. Hey, c'est vrai, ça aussi, ça va être sur les internets. Ben, c'est pas grave, ils vont voir que les chrétiens, on peut bien rire. Mais OK, qui ronfle? Si quelqu'un a un problème de ronflage, j'espère que vous dites « Bonjour, je m'appelle Sébastien, je m'appelle Tim, je m'appelle Guillaume, puis je suis un ronfleur. » Ça fait une drôle d'introduction, pareil. Non, ronfler, c'est pas ce qui me définit, c'est ce que je fais. C'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais. Et il y a une énorme différence dans ce qui est ma nature profonde que Dieu m'a donnée versus ce que je fais. L'un, c'est une caractéristique extérieure, OK, je ronfle. L'autre, c'est ce que je suis profondément dans mon être. Et Dieu me définit, on l'a vu, dans mon être au plus profond comme étant saint. Prendre une autre illustration. Vous connaissez l'histoire, sais-tu la Belle au bois dormant où est-ce que la grenouille devient un prince? C'est ça, hein? Vous connaissez l'histoire, là? La petite madame qui donne un bec à une grenouille, puis elle dit un prince.
La Belle au bois dormant, c'est la...
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça, celle-là, c'est le prince qui l'embrasse, celle, c'est le contraire.
Pierre, c'est une grenouille? Une grenouillette?
Adore.
Ah non, c'est ça! Ben oui, elle est au bois dormant. En tout cas, l'histoire du prince, là, la grenouille qui devient un prince. Ok, imaginez-vous, l'histoire continue, tu sais. Puis, ils s'en vont au restaurant. La madame, puis le prince. Puis là, quand ils sont assis puis qu'ils attendent le hamburger avec une frite, puis une limonade, un orangeade. Moi, quand j'allais au restaurant, quand j'étais petit, je prenais un hamburger, une frite, puis un orangeade. Je pense que pendant 10 ans de ma vie, ça, j'ai pris quand j'allais au restaurant. C'est très bon! Et donc, pendant qu'ils attendent, notre prince, il voit une mouche. Puis là, il l'avale avec sa langue. Est-ce qu'il agit comme un prince? Non. Non, il agit comme une grenouille. Est-ce que ça fait de lui une grenouille? Non. Il agit comme une grenouille, OK? Donc, je suis un saint, mais savez-vous quoi? C'est là qu'on a de la misère. Oui, mais j'agis comme un pécheur. Oui, c'est pas ce que t'es, mais c'est comme ça que t'agis. OK? Et c'est une distinction importante à faire. Mais écoutez bien, là. Je redonne des versets qui nous définissent. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. J'ai parlé tantôt qu'on est devenu participant de la nature divine. Et écoutez aussi Ézéchiel 36-26. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. J'ai dit corps, mais je voulais dire cœur. Cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Dieu a complètement transformé notre ADN spirituel. Et ça, ça fait que nous sommes sécures en lui, nous lui appartenons. Ça le dit, c'est la nouvelle alliance. Ils vont être mon peuple, je vais être leur Dieu. La question, c'est, OK, c'est bien beau ce que Dieu a fait de moi, mais qu'est-ce que je fais quand je pêche? Qu'est-ce que je fais quand que moi, le beau prince, là, j'avale une grenouille de même? Pensez à ça la prochaine fois. Hein? Ah oui! Bon, en tout cas. Mais non, dans le reste d'histoire, c'était une grenouille. Non, c'est reste une mouche. Je suis mêlé dans mes histoires. Oh, mon ami. Ça ne fera pas grand-chose pour que la boucane sorte par ses oreilles-là, mes amis. Non, mais qu'est-ce qui arrive? Lorsque je pêche, je confesse. Confesser, ça veut simplement dire la même chose. Dieu dit ça, c'est un péché. Tu dis oui, c'est vrai, c'est un péché. C'est pas ah ben j'ai pas vraiment fait exprès ou tu sais les excuses ou c'est l'autre. Non, Dieu le dit, c'est ça, confesser. Puis pour ça, il faut s'humilier. Tu sais, au lieu d'excuser puis de blâmer, on met le chapeau, on confesse. Et ensuite de ça, on croit ce que Dieu nous dit, c'est-à-dire que je suis accepté en Jésus-Christ et Dieu est pleinement disposé à restaurer cette relation, cette communion avec moi. Le péché, ce n'est pas la fin de l'histoire.
Amen.
Le péché, c'est simplement pour me montrer comment j'ai besoin de Christ, comment il est précieux, comment il est vrai, comment il est ma vie. Amen. Mais il y a plus. Parce que se décharger sur Dieu comme ça de tous nos soucis, de ce qui nous pèse, c'est merveilleux, c'est une grande bénédiction, mais c'est le côté négatif. Et c'est bien, je veux dire, on doit le faire. Mais aussi, on doit se remplir des paroles de vie, ou pour reprendre les paroles de 1 Timothée chapitre 4, verset 6, se nourrir des paroles de vie. Et pour ça, et là j'ai besoin, peut-être avoir deux volontaires, deux beaux bonhommes, là.
Ah, ben là.
Ouais, mais là, non. Ah, tiens, t'en donneras un petit peu à Raphaël, il va t'aider.
Et deux guillemets.
Je vous donne ça. OK, pendant que vous les avez, parce que là, quand on donne des feuilles de main, il n'y a plus personne qui écoute vraiment. Fait que là, je vais vous donner des choses qui n'ont pas rapport direct avec ce qu'on va voir. OK, y'a-tu quelqu'un qui m'écoute encore?
Non.
OK, bon, il y en a un, merci, Simon. Ah oui, merci. Ben moi, je t'écoutais pas. C'est ça. C'est moi qui n'écoute pas. Parce que lui, il a le verre à main. Je vous suggère fortement, parce que là, on va le regarder bien vite. Là, en fait, on va pas vraiment le regarder en détail. Je vais juste vous donner les grandes lignes. Je vous suggère fortement de prendre cette feuille puis de la mettre dans votre Bible dans laquelle vous avez votre temps avec le Seigneur. Prenez ça, là, puis mettez ça dans votre Bible. Pliez-la en deux, comme moi j'ai fait, là. Mettez ça dans votre Bible. OK, là, tout le monde a une feuille. Ça veut dire que là, tout le monde devrait m'écouter. Là, c'est important ce que je vous dis. Puis, repassez-le, revenez là-dessus, nourrissez-vous. Parce que, regardez, je vous montre comment ça marche, là. Ce que je suis en Jésus-Christ. Voyez-vous ce qu'on a vu? On est accepté en sécurité puis important. OK? On a de la valeur. OK? On a de l'importance aux yeux de Dieu. Puis regardez, c'est tout le temps le même pattern. Si on regarde en haut, je suis accepté. Je renonce au mensonge selon lequel je suis rejeté, mal aimé, malheureux. En Christ, je suis accepté. Puis là, Vous avez toutes les ramifications avec tous les versets bibliques, puis vous pouvez aller voir les versets. Il y a quelque chose de merveilleux à les voir là-dedans. Je suis un enfant de Dieu, un ami de Christ, justifié, ok? Puis ça, c'est tout sur le côté acceptation. Après ça, sécurité encore. Je renonce au mensonge selon lequel je suis coupable, sans protection, seul, abandonné. En Christ, je suis en sécurité. Puis là, c'est toutes des références qui nous amènent bibliquement pourquoi c'est un fait. Et finalement, je suis important, puis là, c'est pas comme, oh, je suis important, je me pète les bretelles. Aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur, ok? Pour être acheté, là, ça montre comment, tu sais, Christ a versé son sang pour nous. Je renonce au mensonge selon lequel je suis inutile, inadéquat, impuissant, désespéré. En Christ, je suis important, puis là, vous allez voir toutes les ramifications de ça dans les points qui sont là en dessous. Mes amis, ça, là, accrochez-vous à ça comme votre vie. Parce que c'est votre vie. C'est pas une allégorie, là. C'est ça, notre vie en Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que Dieu nous a donné, tu sais, je veux dire, c'est partout dans la parole, là. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. C'est dans la parole de Dieu, c'est ce que dit, c'est le plan rédempteur, puis nous, on a tout au complet, là, tout ce plan-là qui nous est complètement dévoilé en Jésus-Christ, puis tout ça. Et ce qui est merveilleux avec tout ça, c'est quand on nourrit notre cœur de ça, on prend de l'assurance en notre Dieu, et au lieu de chercher à gauche, à droite, parce que, tu sais, par défaut, là, si je ne trouve pas ça en Jésus-Christ, là, d'être accepté, je vais essayer d'être accepté par les personnes. Je vais tomber dans la crainte de l'homme, essayer de plaire à l'homme, ok? Sécurité, je vais essayer de trouver la sécurité dans une job ou quelque chose, ok? Ou dans ce que je fais, ou... Puis mon importance, la même affaire. Tout ça, lorsque je me... nourri de ça, de ces paroles de vie, ça va porter du bon fruit dans ma vie. Et je termine avec ce point-là important. Pourquoi ça, c'est si important? Vous savez, en tant que pasteur même, puis en tant que chrétien, mais il y a un moment de ma vie où est-ce que je me disais, tu sais, mettons, je vais vous donner l'exemple avec Éphésiens. Éphésiens, il y a 6 chapitres, c'est divisé, c'est facile, là, c'est pas le seul épître de Paul qui est comme ça, mais c'est divisé en deux. Il y a la partie doctrinale, chapitre 1, 2, 3, partie pratique, 4, 5, 6. Pour moi, là, avant, là, c'était, ok, on passe de doctrinal assez vite, puis donne-moi ce qui est pratique, le pratico-pratique, 4, 5, 6. Puis je me suis rendu compte, littéralement, c'est mettre la charrue devant les bœufs. Pourquoi Dieu a mis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 avant 4, 5, 6? Parce que c'est toute cette idée de ce qu'on pense qu'on est en Jésus-Christ. Et de là découle le service, la pratique, le pratico-pratique. Donc, si vous voulez être un chrétien qui porte du fruit efficace, qui a la joie du Seigneur, qui marche de victoire en victoire, il faut s'imbiber de ça. C'est le Éphésiens 1, 2, 3 de nos vies, ça. Puis c'est plus que... D'ailleurs, là, vous allez voir, il y a beaucoup de versets dans Éphésiens 1, 2, 3 qui sont là-dedans, là, mais il y en a plus. Puis c'est ça le secret de la vie chrétienne. C'est pas d'essayer plus fort, c'est voir que nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est s'en imbiber puis voir que... Comme dirait Bounikou, that's it! That's it, man! Fait que c'est demain que je finis mon message. That's it! Amen! Hey, moi, ça me craint, ces affaires-là. C'est tellement extraordinaire, là. Moi, c'est ma vie, puis je veux dire, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Puis ce qui m'encourage, d'avoir une église qui embarque là-dedans, qui veut ça. C'est l'œuvre de Dieu, c'est sa grâce, c'est beau, ça vient de lui. Merci, Seigneur. Ah, Seigneur, oui, on te remercie. On te remercie parce que... Tu nous révèles, Seigneur, des trésors merveilleux. Seigneur, c'est vraiment ce qu'on a vu après-midi, c'est les richesses incompréhensibles de Christ. C'est des choses tellement grandes, ça dépasse notre entendement, mais en même temps, c'est accessible. On peut s'en nourrir et on peut vivre par elle et se réjouir en ce que tu as fait de nous. Merci, Seigneur, que ce qui a été perdu, on le retrouve complètement et parfaitement en Jésus-Christ. Merci qu'on n'a pas cherché dans ce monde pour être accepté, pour être, pour avoir trouvé notre valeur ou pour avoir une signification aux yeux des gens, Seigneur, mais qu'on a tout ça en toi. On n'est pas obligé d'être des gens qui cherchent. On a trouvé. Seigneur, qu'on ouvre ce trésor, qu'on qu'on le découvre. Ouvre nos yeux, qu'on contemple toutes les merveilles de ta parole qui nous révèle Christ et ce que nous sommes en lui. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen.